Le journal du handicap. Promouvoir l'égalité, agir pour le vivre ensemble. Le journal du handicap, un magazine soutenu par la région Île-de-France. Tous les samedis à 15h et rediffusion le jeudi à 19h30.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du handicap, la première édition de cette année 2016. Et j'en profite pour vous présenter mes vœux les plus sincères de santé et de réussite. Dans l'actualité de ce samedi 9 janvier, Patrick Devedjian, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, travaille à une fusion avec les Yvelines qui pourrait engendrer des économies d'échelle et ainsi permettre la création d'un centre pour enfants handicapés. On va parler également cinéma avec le court métrage Je suis pareil que toi, réalisé par Mathieu Boivineau et qui raconte en geste la vie des personnes sourdes. Ce film est en compétition pour le festival Nikon. Les votes sont ouverts jusqu'au 15 février. Nous verrons que la prime d'activité concerne bien sûr également les travailleurs en situation de handicap. Également dans l'actualité, la directrice d'école et une référente ASE mise en examen après le décès d'une écolière trisomique en janvier 2015. La fillette avait été poussée par la fenêtre par un écolier de sa classe de CLIS, déjà signalé pour trouble du comportement. Également dans l'actualité, en France, ils sont 6000 jeunes adultes handicapés bénéficiant de l'amendement Creton à être maintenus dans des établissements pour enfants faute de places adaptées à leur âge. Et enfin, pour clôturer ce journal, nous serons en ligne avec Madame Olivia Marchal, directrice de l'établissement scolaire Tournesol. Elle nous présentera le mode de fonctionnement de cet établissement pour élèves en difficulté.
Le journal du handicap, les actualités.
Patrick Devedjian, député et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a fait savoir le 4 janvier dernier au talk du Figaro qu'il travaillait à une fusion de son département avec celui des Yvelines, présidé par Pierre Bédier. L'ancien ministre espère que cette fusion pourra se faire dans les 2 ans qui viennent, mais il faudrait y aller raisonnablement pour être efficace. Le but est de faire des économies financières et d'être plus efficace sur le terrain. Grâce à cette fusion, les départements pourront faire 10% d'économie. Le député des Hauts-de-Seine a expliqué que sur un certain nombre de maladies orphelines, des enfants handicapés sont traités en Belgique, pas en France, alors que c'est de la compétence des départements. Selon lui, une fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine devrait permettre la création d'un établissement en région parisienne destiné à l'accueil des enfants handicapés. Les Yvelines et les Hauts-de-Seine, s'ils venaient à être fusionnés, formeraient ainsi une entité de 3 millions d'habitants. À présent, parlons cinéma. Je ne suis pas qu'un geste, c'est ce qu'entendent clamer les protagonistes de ce court-métrage. Sourds, ils s'expriment en langue des signes et disent leur passion, leurs projets, leurs défis et leurs émotions. Ils veulent tout simplement prendre l'air, travailler de leurs mains, être curieux et découvrir le monde et nous raconter le leur. 2 courtes minutes pour une bien jolie poésie que l'on doit à Mathieu Boivineau, qui a déjà réalisé plusieurs documentaires sur le monde de la surdité et plus globalement de la déficience sensorielle. Son nouvel opus, Je suis pareil que toi, a été tourné avec la participation de jeunes sourds du centre Charlotte Blouin à Angers, en guest Vincent Novelli, champion du monde de tennis sourd. Sensible et élégant, ce film dessine une multitude de moments de leur vie avec l'ambition de proposer un autre regard sur la surdité. Ce film est en compétition pour la 6e édition du festival Nikon qui promeut des courts-métrages de moins de 140 secondes. Présidé cette année par l'acteur Jacques Gamblin, il invite à illustrer la thématique du geste sous toutes ses formes, qu'il soit anodin, symbolique ou historique. Le geste qui peut être très abstrait ou au contraire trop concret permet à tous de remplacer la parole pour exprimer des intentions, des émotions ou des sentiments. Le public est invité à voter en ligne, opération qui peut être renouvelée une fois par jour jusqu'au 15 février prochain. Pour le moment, le film de Mathieu Boivineau figure dans le top 50 des réalisations les plus soutenues. Un petit geste pour lui permettre de prendre de la hauteur. Profitez-en pour savourer les films en compétition, certains petits bijoux valent vraiment le coup d'œil. Revenons à présent sur la prime d'activité versée aux personnes qui travaillent mais qui gagnent moins de 1500 euros net par mois. Cette prime vise à renforcer le pouvoir d'achat des actifs aux revenus modestes et à inciter à la reprise d'une activité professionnelle. Elle permet d'améliorer concrètement la situation des ménages qui ont des ressources limitées mais souvent trop élevées pour percevoir certaines prestations sociales. La prime d'activité est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Elle se substitue à la prime pour l'emploi et à la partie activité du revenu de solidarité active. Elle est financée par l'État et versée par les caisses d'allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Les actuels bénéficiaires du RSA qui travaillent perçoivent automatiquement la prime d'activité. Ils n'ont donc aucune démarche à effectuer. La prime d'activité concerne donc aussi les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de travail. Elle permet d'accroître le pouvoir d'achat des travailleurs handicapés dont les revenus sont proches ou inférieurs au SMIC. Les gains se situent pour ces personnes entre 15 et 150 euros par mois. À noter qu'une personne handicapée seule, travaillant en milieu ordinaire dont le salaire est de 800 euros net par mois et qui perçoit une allocation adulte handicapée de 231 euros, peut percevoir une prime d'activité de 136 euros par mois. Je le disais dans les titres, la directrice d'une école et une travailleuse sociale ont été mises en examen à Angoulême. Un an après la mort à Périgueux d'une fillette trisomique de 8 ans, défenestrée de son école par un camarade. L'enquête ouverte après le drame a débouché sur la mise en examen pour homicide involontaire de la directrice de l'école privée du Sacré-Cœur, ainsi que la référente de l'aide sociale à l'enfance chargée du suivi éducatif du garçon soupçonné d'avoir poussé la petite Lali d'une hauteur de 5 mètres. La chute de la fillette s'était produite dans une classe CLIS, une classe pour l'inclusion scolaire accueillant des enfants avec des handicaps psychomoteurs et ou des troubles du comportement, où la victime et l'enfant qui l'a poussée dans le vide étaient scolarisés. Une source proche du dossier a souligné le lourd passé du garçonnet, lui aussi âgé de 8 ans au moment des faits. Les parents sont totalement défaillants et le garçonnet a même fait l'objet récemment d'un signalement pour maltraitance, notamment de nature sexuelle, de la part de son père. L'enquête a aussi mis en lumière un précédent incident impliquant le même garçon qui avait en 2013 poussé du premier étage une fillette de 2 ans, légèrement blessée. Cette affaire soulève donc la question du secret professionnel puisque l'enseignante semblerait ne pas avoir été informée de ce précédent. Elle concerne aussi toutes les autres institutions, le juge des enfants, l'éducation nationale et la MDPH, un groupement d'intérêt public chargé de l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. Le garçon placé dans une famille d'accueil et d'agglomération périgourdine ne peut être mis en contact avec d'autres enfants, ce qui rend de facto sa scolarisation impossible. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une première expertise psychiatrique visant à déterminer sa capacité de discernement. Toujours dans l'actualité en France, 6000 jeunes adultes handicapés sont maintenus dans des établissements pour enfants dans l'attente de places adaptées à leur situation et surtout à leur âge. Ce dispositif, faute de mieux, existe depuis 1989 grâce au combat mené par le comédien Michel Creton. L'amendement portant son nom permet le maintien temporaire dans leur établissement de jeunes handicapés atteignant l'âge de 20 ans lorsqu'ils ont une orientation par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vers un établissement pour adultes, mais sont dans l'attente d'une place. Il apparaît que ce maintien dans l'établissement d'origine dure de plus en plus longtemps. Les deux tiers ont 20 ou 21 ans et 59% sont des garçons. Ils sont plus souvent atteints d'un handicap plus lourd que l'ensemble des enfants accueillis en établissement et sont plus nombreux à présenter une déficience associée. À la sortie de l'établissement pour enfants handicapés, un quart de ces jeunes adultes sont accueillis en foyer occupationnel ou de vie. Ils sont toutefois 43% à exercer une activité professionnelle, presque toujours dans le secteur protégé. Néanmoins, 6% d'entre eux se retrouvent à domicile sans aucune prise en charge ou orientation médico-sociale. Place à l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Madame Olivia Marchal, directrice de l'établissement scolaire Tournesol, situé dans le 12e arrondissement de Paris.
Le journal du handicap, l'interview de la semaine.
Madame Marchal, bonjour.
Bonjour.
Votre établissement scolaire, donc l'établissement scolaire du second degré pour élèves en difficulté, qui se nomme Tournesol, a été créé par l'association Tournesol et est ouvert depuis 2011. Vous accueillez donc des élèves de 11 à 20 ans présentant des troubles des fonctions cognitives et mentales. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un trouble de la fonction cognitive ?
Alors, ce sont des troubles extrêmement vastes puisqu'ils regroupent à la fois des troubles qu'on peut appeler liés à la déficience et qui vont jusqu'à l'autisme. Donc vous voyez que le spectre est extrêmement vaste plus généralement, c'est du handicap mental.
Et donc, qu'est-ce qui a motivé l'ouverture de cet établissement ?
Alors, l'établissement a été créé par des professionnels, ce qui est une originalité, puisque d'habitude, ce genre de structure est créé par des parents qui sont sans structure pour leurs propres enfants et qui créent des structures scolaires ad hoc. Nous sommes des professionnels soit issus de la santé, soit issus de l'éducation, qui avons, au vu d'un constat terrain et au vu des chiffres ministériels, constaté que les troubles cognitifs ou mentaux étaient très difficilement, ou en tout cas pas entièrement pris en charge scolairement parlant, et qu'il y avait des caps d'âge difficiles à passer, comme le cap de la primaire au collège, par exemple, ou le cap du collège au lycée. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes intéressés à cette tranche d'âge de 11 à 20 ans, qui est la tranche d'âge qui correspond à l'adolescence. Comme tout jeune, ils ont des crises d'adolescence, et donc les grosses structures publiques ou privées qui inclut au sein des gros établissements ordinaires, ne sont pas adaptés pour tous. Ils sont adaptés pour un certain nombre, mais pas pour tous. Et certains parents ne souhaitaient pas mettre leurs enfants dans des établissements médico-sociaux avec peu de scolarité.
Combien d'établissements tels que le vôtre existent-ils dans Paris et même à l'échelon national ?
Alors, sous contrat, je crois qu'on est unique en France. Il y a des aventures hors contrat qui sont nées un petit peu partout sur le territoire, qui ont du mal à subsister parce que qui dit hors contrat dit pas d'aide du tout. Je connais des établissements qui sont nés, qui sont morts. C'est extrêmement difficile de perdurer dans ce genre d'établissement lorsqu'on n'est pas soutenu.
Et comment se passe l'accompagnement des élèves ? Est-ce que vous proposez un programme individualisé pour coller aux besoins spécifiques de chaque élève ?
Alors, ici, chacun arrive avec son niveau scolaire. On peut être dans un tout petit niveau scolaire, même si on a 17 ans, on peut ne pas savoir lire, ce n'est pas grave. On peut par contre avoir un bon niveau scolaire, 4e par exemple. Ce qui marque chez ces jeunes, c'est qu'ils ont une grande hétérogénéité et ils peuvent être, je vais vous donner un exemple, en 6e en français et en 4e en maths par exemple, ou en CM2 et en 6e. Donc le niveau scolaire nous importe peu puisque nous faisons de la pédagogie individualisée. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui se met au niveau de l'élève et non l'élève qui se met au niveau du groupe. Ce qui explique qu'on a des groupes classes de 10 élèves maximum.
Combien d'élèves justement compte votre établissement et comment sont-ils répartis ?
Alors, il y a 3 classes de 10 élèves avec des objectifs pédagogiques différents. La classe 1 a des objectifs pédagogiques pour gagner en autonomie. Ce sont les élèves qui ont le plus de difficultés et ont besoin de gagner en autonomie. La classe 2, ils sont déjà rentrés dans la scolarité à proprement parler, même si la classe 1, ils font des maths, du français, des sciences, de l'histoire-géographie, mais à petit niveau. La classe 2, ils sont déjà presque au niveau collège, et donc on sert souvent de tremplin pour réintégrer une scolarité plus ordinaire. Ça, c'est pour la classe 2. Et la classe 3, ils ont entre 16 et 20 ans. Ce sont les exclus du système scolaire Ulysse, par exemple, où ils ont cheminé en système ordinaire ou en Ulysse. Et puis, à partir de 16 ans, l'école n'est plus obligatoire et ils ne trouvent plus de place pour approfondir leurs connaissances. Donc la classe 3, comme objectif, elle a le travail sur l'orientation professionnelle.
Comment sont organisées les journées des élèves ? Comment est-ce que les enseignants, surtout, s'adaptent à chaque élève ?
Alors, le petit nombre, ça c'est la clé pour pouvoir s'adapter à chacun. Donc 10 élèves par classe, donc un enseignant pour 10 élèves, de la pédagogie individualisée. Donc un emploi du temps type, c'est 3 cours de 45 minutes le matin pour tous, classe 1, classe 2, classe 3. Ils ont 3 cours de 45 minutes, donc ils font tous des maths, du français, de l'histoire-géographie, des sciences, de l'anglais peut-être en filigrane, mais enfin il n'y a pas d'approfondissement en anglais, il faut être raisonnable. Pour ceux qui seraient bons en langue, moi je suggère qu'ils continuent l'anglais à l'extérieur, mais on n'a pas le temps de tout faire, parce que sur 3 cours le matin, ils ont une grande fatigabilité, on ne peut pas avoir l'équivalent absolu du programme. L'après-midi, ça s'organise avec un cours, plus un atelier pédagogique. Un atelier pédagogique pour donner du sens aux apprentissages. Je m'explique. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on fait du théâtre. Lorsqu'on ne sait pas à quoi servent les maths, on fait de la cuisine pour mesurer, peser, faire des conversions. Donc tout a un objectif de sens pédagogique.
Nous avons vu que vous accueillez donc des élèves âgés entre 11 et 20 ans. La dernière classe est la classe 3. Et vous continuez par contre l'accompagnement au-delà de la classe 3 pour les élèves passés 20 ans avec bientôt Tournesol Pro, c'est ça ?
Exactement. Tournesol Passerelle Pro, c'est un projet. On n'a pas réussi à trouver les financements pour cette quatrième classe ou ce quatrième groupe, on va appeler ça un groupe puisqu'ils ont plus de 20 ans, donc ça s'appelle peut-être plus une classe. L'idée, c'est de construire un projet professionnel et le valider sur le terrain avec des stages de plus de 4 semaines, 2 fois, afin de trouver exactement les appétences et les capacités de chacun de nos jeunes.
Et donc, vous pensez que ce groupe sera effectif à partir de quand ?
Alors, j'ai l'équipe de formateurs, donc ça, j'ai trouvé l'équipe de formateurs. Les jeunes, c'est pas une difficulté. La grosse difficulté, c'est de rendre gratuit ou quasi gratuit cet accompagnement, parce qu'après 20 ans, les aides de la MDPH ne sont pas les mêmes qu'avant 20 ans, et je me suis interdite d'ouvrir cette classe en faisant payer 700 euros par mois à chacun des jeunes. C'est le coût réel. Je me suis interdite d'ouvrir cette classe tant que je n'avais pas des financements extérieurs. Donc, on fait appel à des fondations, on fait appel au pouvoir public, mais tout ça, ça demande du temps. On est habilité à percevoir la taxe d'apprentissage, ça c'est important parce que c'est en ce moment. Donc il faut savoir que si les entreprises veulent verser leur taxe d'apprentissage au lieu de la laisser à l'État, il suffit de mettre Tournesol avec notre numéro de référence. Tout est inscrit sur notre site tournesol75.fr. Et c'est vrai que dès qu'on aura les financements, on pourra rendre gratuit cet accompagnement à une dizaine de jeunes qu'on espère pouvoir accompagner vers l'emploi.
Eh bien écoutez, Madame Marchal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'antenne de BPM.
Ben, je vous en prie, c'est avec plaisir.
À très bientôt.
À très bientôt.
Je rappelle que l'établissement Tournesol est situé au 22 rue Gabriel Lamé dans le 12e arrondissement de Paris. C'est la fin de cette édition du journal du handicap. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le thème du handicap. Si vous êtes une association, une entreprise ou un particulier et que vous souhaitez mettre en lumière votre sensibilité à la question du handicap, n'hésitez pas à nous contacter au 01 30 33 16 99. Excellent week-end à tous. À l'écoute de BPM.
Le journal du handicap. Promouvoir l'égalité, agir pour le vivre ensemble. Le journal du handicap, un magazine soutenu par la région Île-de-France. Tous les samedis à 15h et rediffusion le jeudi à 19h30.